Bonjour à chacune,
à chacun. Je vous invite à reprendre ensemble ce chapitre 1 du livre des Actes. Avec un verset clé, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons réfléchir ensemble à la mission que le Seigneur nous a confiée, à nous qui l'avons rencontrée en réconciliation. Une mission, c'est d'être ses témoins. Témoins aujourd'hui, dit un cantique, témoins toujours. Témoin partout de ton amour, témoin de nuit comme de jour, de toi je parle sans détour. Alors, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet de ce matin qui est l'évangélisation, qui est ce témoignage de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre, petite introduction néanmoins sur ce livre des Actes que nous commençons. Un livre qui va avoir plusieurs parties, on va peut-être pas les faire toutes en même temps. Et peut-être des parties qui suivent le verset 8. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, ça se situe à Jérusalem. Puis il dit ensuite, dans toute la Judée et dans la Samarie. Ça, c'est le chapitre 8 jusqu'au chapitre 12 du livre des Actes. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est les chapitres 13 à 28 avec les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Alors voilà plusieurs parties de ce livre. Mais qui donc a écrit ce livre des Actes? Eh bien, c'est un médecin, c'est Luc. Et c'est les écrits, l'évangile de Luc et le livre des Actes, sont les seuls livres d'ailleurs qui n'ont pas été écrits par un juif. Hein? Luc n'est pas juif. C'est rare hein, que nous ayons des livres bibliques qui ne soient pas écrits par quelqu'un du peuple juif. Eh bien, le voici. Et pourtant, nous allons le voir, c'est un livre qui, dans ce qu'il raconte, dans son histoire, est fondamental pour comprendre la place d'Israël et pour comprendre la place de l'Église. Deux visions dans ce livre des Actes. La première, celle de l'Église en tant que témoin là où elle se trouve, dans sa localité et jusqu'aux extrémités de la terre, une Église qui témoigne et une Église missionnaire. Et puis, deuxième chose que nous suivons du premier chapitre jusqu'au vraiment au dernier, c'est toute cette transition et ce rapport entre les chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire ceux qui attendaient le Messie tout simplement et qui l'ont trouvé en Jésus. Et est-ce qu'on change de religion? Est-ce qu'on passe du judaïsme au christianisme? Non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos anciens rites? Qu'est-ce qu'on fait de la circoncision? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De la loi? Le livre des Actes va aborder cette question. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette transition? Et donc, la deuxième vision, hein, le livre des Actes, c'est vraiment l'époque de proposition du royaume messianique au peuple juif. Même après la crucifixion, le Seigneur a dit oui, vous m'avez crucifié, mais je vous donne encore, ce sera le discours de l'apôtre Pierre, hein, on le verra plus tard, mais je vous donne encore un temps pour croire, je vous donne encore un temps pour que ce royaume, pour que ce rétablissement d'Israël vienne. Et le livre des Actes s'étale donc sur une trentaine d'années. Parfois on le lit, on se dit hop hop, c'est rapide. Non, c'est 30 ans 28 chapitres, 28 années, peut-être ça nous aide à nous souvenir, hein, mais une trentaine d'années, de l'année 30 jusqu'à l'année 60 environ. Tout un temps où le Seigneur va travailler au sein de toutes les populations juives d'Israël, de Judée, mais à l'extérieur dans l'Empire romain, jusqu'à Rome, et ça se termine à Rome avec Paul à Rome avec les représentants des juifs dans cette capitale de l'Empire, et qui vont refuser, et qui vont refuser Jésus. Alors, on comprendra ces deux visions, un livre fondamental, parce que bien le comprendre et bien comprendre cette dynamique de proposition du royaume messianique durant ces 30 ans, jusqu'à la clôture, va poser beaucoup de choses en théologie. Dans ce livre, nous allons voir, par exemple, un élément majeur qui est la question du millénarisme ou de l'amillénarisme. Vous dites de quoi il nous parle. Tout de suite, les disciples, dans ce chapitre 1, disent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Est-ce que toutes tes promesses dans l'Ancien Testament d'un royaume physique d'Israël avec le roi d'Israël, est-ce que tout ça, ça va s'accomplir ou pas ?» Et depuis des siècles, l'Église catholique a balayé cela d'un revers de la main en disant « Mais non, 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 Israël n'a plus de rôle à jouer, Israël, toutes ces promesses, ce sont des images. Toutes ces promesses, elles sont pas à prendre au pied de la lettre. Quand Dieu a promis ça, il fallait pas le prendre au sens littéral, il fallait comprendre un sens un peu spirituel. C'est une image. » L'Église catholique, depuis des siècles, et dans ce vecteur théologique. Et malheureusement, au cours du XXe siècle, l'Église protestante officielle, réformée, le temple que nous avons ici, malheureusement, ils ont emboîté le pas. Et le problème, c'est que quand on commence à prendre certains morceaux de la Bible contre toute, je dirais, honnêteté littérale et intellectuelle, en disant « Non, il faut le prendre au sens figuré. » On en vient où ? On en vient, comme dans l'Église protestante réformée aujourd'hui, à dire que même la résurrection physique de Jésus, c'est une image et qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Or, le problème, c'est donc ce chapitre-là, acte 1, il dit « Vous êtes témoins de sa résurrection ». Attendez, mais on lit des trucs de fous là-dedans. On lit des trucs de fous. Un gars qui s'envole dans les airs sur un nuage. Non mais oh, 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 on va où là? Qu'est-ce qu'il nous raconte, Luc, soi-disant un historien? C'est un récit de science-fiction. Il nous raconte que Jésus, il a été enlevé au ciel. Hop, 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 il est monté, il a été élevé. Une nuée l'a enveloppé et il a disparu. Puis des hommes en blanc sont arrivés en disant « Pourquoi vous regardez au ciel ce Jésus qui a été élevé au ciel ?» Il va revenir de la même manière. Il va revenir, vous voyez? Il va descendre, hop, il va arriver. Vous n'êtes pas dans un récit de science-fiction, hein? Donc la question de la millénarisme, c'est-à-dire de cette compréhension de dire « Est-ce que lorsque Dieu parle, et ça pose la question des miracles, ça pose la question de la résurrection, ça pose la question de l'élévation, hein, de ce qu'on appelle l'ascension, ça pose la question du retour de Christ, plein de questions. En fait, est-ce que tout ça, c'est des images? Est-ce qu'il faut n'en retenir que des valeurs? Des valeurs. C'est ce que l'Église catholique a fait, c'est ce que l'Église réformée fait, c'est ce que des églises traditionnellement évangéliques sont en train de faire, comme l'Église méthodiste et d'autres. Voilà. Donc, là, il y a un positionnement extrêmement important. Aujourd'hui, quand je vous en parle, ça vous semble peut-être un peu lointain, etc. Mais c'est fondamental. Parce qu'on va toucher à des choses fondamentales de notre foi. Cette question qu'on peut poser à Pâques, Jésus-Christ est-il réellement ressuscité ? Oui, il est réellement ressuscité, physiquement. Pas une sorte de « oui, il est ressuscité dans nos cœurs ». Égypte. Non. Eh, il était là, hein. Et Luc le raconte. Donc voilà, ça c'est une première chose. D'autres choses, d'autres aspects théologiques qui vont être dans ce livre des Actes et qui sont fondamentaux, nous le verrons avec le chapitre 2, c'est toute la question du pentecôtisme, charismatisme, parler en langue, les miracles, les dons, etc. Quelle est leur place? Qu'en dit la parole? Qu'en est-il aujourd'hui? Et là, également dans le monde évangélique, nous avons deux compréhensions différentes. Et ici, nous nous dissocions de la vision pentecôtiste et au travers de ce livre des Actes, nous allons chercher vraiment à comprendre cette, au travers de cette période de proclamation, de proposition du royaume messianique. 30 ans où Dieu propose encore au peuple d'Israël le royaume du Messie. En accord complet avec les prophéties de l'Ancien Testament et de tous les dons miraculeux et le parler en langue qui étaient prophétisés dans l'Ancien Testament à destination du peuple d'Israël, récalcitrant jusqu'au bout. Et Paul nous le dira en Corinthiens. Donc, des choses fondamentales, hein. Un livre donc important également sur la conception de l'église locale, la conception de la mission, de l'évangélisation. Ça va nous parler aussi du baptême. Ça va nous parler de beaucoup de choses, hein. Alors, simplement, avant d'entrer dans notre sujet de ce matin qui est l'évangélisation, ça mérite quand même que vous preniez le début de l'évangile de Luc, puisque là, ce livre commence en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre ». Ben oui, ben il y a eu un premier livre, et là nous avons le second, le livre des Actes et le second. Et nous retrouvons en Luc son introduction qui explique plus précisément dans quelles circonstances ce médecin grec, Luc, a décidé d'écrire l'évangile de Luc et le livre des Actes, que nous appelons les Actes des Apôtres. Alors il dit ceci, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc n'a pas lui-même été un témoin oculaire, il n'a pas vécu parmi les disciples et les nombreux disciples qui suivaient Jésus, mais par contre, lorsqu'il s'est converti, ayant été touché par la parole, il s'est joint aux apôtres, aux disciples, il les a suivis, et puis c'est, à un moment il s'est dit, mais ça mériterait que on couche par écrit d'une manière plus exacte, plus suivie. Et il a commencé à tenir un journal de bord. Alors il faisait des interviews, hein. Il allait voir Pierre. Après, il fera tous les voyages avec Paul. Et puis, il rencontre chacun comme ça. Et puis, parce qu'il dit, hein, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Oui, il avait son calepin. Et puis, il notait, etc. Puis, une fois qu'il a eu toute cette matière historique attesté, où il a recoupé les informations, où il a été vérifié auprès des témoins, des oculaires, et plusieurs témoins. Il dit, voilà, ben maintenant j'ai toute cette matière-là, et je vais la structurer, et je vais la raconter. Alors merci Seigneur, parce que c'est vrai que si nous avons trois autres évangiles, par contre nous n'avons qu'un seul livre des Actes. Et heureusement qu'il est là. pour nous faire comprendre cette transition et cette naissance de l'Église. Voilà. Maintenant, laissons les généralités sur le livre des Actes et revenons à notre sujet du jour, une Église qui témoigne, une Église qui évangélise. Le Seigneur nous a appelés à être témoins de sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, eh bien moi, je pense aux extrémités de la terre, par exemple à cette famille missionnaire pour laquelle nous prions, la famille Touche, qui depuis 4 ans maintenant, je crois, est partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une tribu qui n'a jamais été encore atteinte par l'Évangile. Donc une famille missionnaire qui fait partie d'une mission dont la spécialité, j'ai envie de dire, ce sont les populations jamais encore atteintes par l'Évangile. Et il en reste. Il y a encore aujourd'hui des poches de population dans le monde qui n'ont jamais encore eu l'occasion d'entendre et de recevoir l'Évangile. Alors vous voyez que ce verset 8, il commence lorsque ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il soit élevé au ciel, oui. Et cette mission, elle continue encore aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ça nous concerne ? Ça nous concerne. Ça nous concerne. C'était pas juste pour eux, c'est pour nous aujourd'hui. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Ça c'est fait. J'ai envie de dire. Bon, ce qui est fait est toujours à refaire, hein, mais c'est fait. Mais jusqu'aux extrémités de la terre, dès ça continue. Alors oui, nous avons à ce matin, au travers de ce texte, à réfléchir, est-ce que un des pivots du sens de ma vie, je me suis converti à Jésus-Christ, mais est-ce que un de mes objectifs de vie, un des pivots de ce qui donne du sens à mon existence de chrétien, est-ce que c'est fondamentalement d'être témoin de Jésus-Christ? Parce que si on passe à côté de cette vocation d'être témoin de Jésus-Christ, ben on passe à côté d'un des sens les plus essentiels de notre identité d'enfant de Dieu. On passe à côté. Et c'est important de se rappeler que ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus. Ce Jésus que nous aimons, qui nous a sauvés, que nous avons pris comme notre berger, comme notre maître, quelle est la dernière chose qu'il me dit ? Tu seras mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, 5 choses au travers de ce texte que j'aimerais partager avec vous ce matin qui concernent le témoignage. D'abord, la première chose que nous trouvons, c'est le début du verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et je rejoins la prière que notre sœur tout à l'heure a faite en disant « Seigneur, enlève le moi. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Moi. » Mais que ce soit toi, Seigneur, qui fasse à travers nous. Et là, nous questionnons le titre de ce livre qui s'appelle « Les Actes ». Les Actes. Mais les actes de qui ? Alors certains manuscrits ont rajouté des apôtres. Mais en réalité, Il serait plus juste de dire c'est pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Vous voyez la nuance ? Ce qui est mis dans le livre des actes en avant, ce ne sont pas les gens. C'est pas Pierre. C'est pas Paul. Super Pierre, super Paul, super Apollos, super Étienne. Non ? C'est le super Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est omniprésent dans l'action qui se déroule. C'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui équipe, c'est lui qui agit. Et si ce n'est pas lui, ben y a un problème. Il y a un problème. Témoin de Jésus-Christ, oui, mais à partir de quelle puissance, à partir de quelle force, à partir de quelle énergie, à partir de quelle personne. Qu'est-ce qui m'anime ? Est-ce que c'est moi ? Ouais, moi, je vais être un témoin, moi. Pars avec le Saint-Esprit, hein. Parce que si tu pars sans lui, ça va être une catastrophe. Et la première des choses que nous devons vraiment prendre à cœur, est-ce que je veille à être rempli de l'Esprit ? Je suis un témoin de Jésus-Christ. Est-ce que je veille à être témoin, à être rempli de l'Esprit pour pouvoir être ce témoin, toujours prêt ? Il a dit, étant toujours prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est dans une épître. Toujours prêt. Mais toujours prêt comment ? Ouais, moi, je suis toujours prêt, moi. Ouais. Toujours prêt, c'est toujours rempli de l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a toute liberté pour agir à travers moi, les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, au travers des chrétiens, au travers des membres de l'Église d'Arles. Amen. Et ce cantique qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Tel était l'ordre divin. Soyez remplis de l'Esprit pour ne pas vivre en vain. Nous ne pouvons pas témoigner, évangéliser par nos propres forces, par notre propre sagesse, par notre propre intelligence, par nos propres arguments. Alors on peut se dire, oui, on va développer une stratégie, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, on va développer telle rhétorique. Oui, oui. D'abord, on va surtout s'assurer d'une chose, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est que nous nous levons pour parler à partir de l'action du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est fondamental. Et je pose la question aujourd'hui, nous, dans notre mission à Arles, d'être témoins de la résurrection de Christ, dans quelle mesure sommes-nous remplis de l'Esprit ? Dans quelle proportion sommes-nous propulsés par le Saint-Esprit ? Alors, soit on est propulsé par nos propres forces, alors là, il y a l'orgueil, il y a ceci, il y a des tas de problèmes, soit on n'est pas propulsé du tout, et il y a une inertie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe, on ne témoigne pas. On ne témoigne pas, en fait. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas la propulsion, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Et donc, le témoin, il est muet, le témoin. Il, voilà. Le Seigneur nous appelle à témoigner. Témoin de sa résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai, parfois, on réfléchit à notre vie, on est occupé, on a une famille, profession, etc., des défis à relever. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Hein ? C'était la question qu'on posait vendredi, une réponse qu'on tâchait d'élaborer à la question de quelqu'un qui disait « J'aimerais trouver un sens à ma vie. » Et Jésus qui a dit « Amassez-vous des trésors au ciel. Construisez pour ce qui dure jusque dans la vie éternelle. » Témoin. La deuxième chose que nous trouvons concernant le fait d'être témoin et la puissance de l'évangélisation, c'est une réunion de prière. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, etc. Vous savez combien de temps a duré cette période de prière ? 10 jours. Jésus a été élevé le 40e jour, et ils ont prié jusqu'à la Pentecôte, 50 jours. 10 jours. Peut-être que... il y en avait qui venaient, qui sortaient parce qu'ils avaient leur job. Mais ils revenaient. Une réunion de prière qui a duré 10 jours. Parce que quand Jésus dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », après s'être assuré que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous anime et qu'on est rempli du Saint-Esprit, la deuxième chose, c'est de se mettre à genoux. Nous, on aurait envie d'y aller. Allez, on fonce, on y va, on y va. Oui, mais une église puissante dans le témoignage et dans l'évangélisation, ce chapitre nous enseigne que c'est une église qui prie. Une église qui prie. À l'école biblique, on nous a souvent dit qu'on mesure la vitalité d'une église au nombre de personnes qui assistent à la réunion de prière. Là, ils sont 120 à la réunion de prière. Parce qu'une église qui avance, une église qui témoigne, une église qui grandit, c'est une église qui est à genoux. Et c'est vrai que la réunion de prière, prier ensemble, c'est exigeant. C'est pas évident. Et je pense que prier dans la vie d'un chrétien, c'est l'une des choses peut-être les plus difficiles à mettre en œuvre. Il persévérait dans la prière. Vous avez remarqué ce terme, il persévérait. C'est aujourd'hui la finale de la Coupe du Monde. Et si vous aimez le foot, ne me dites pas que vous avez persévéré pour suivre tous les matchs de l'équipe de France. Non, vous n'aviez pas besoin de... persévérance. Persévérance, c'est on sait que c'est la bonne chose à faire et on va s'imposer une discipline parce que tout nous porte à ne pas le faire, à nous en décaler. Persévérance. Et moi, le premier, les réunions de prière, je trouve pas toujours ça facile. Quand j'avais 20 ans, c'était le genre de truc que je détestais. Alors je prenais des bouquins pendant ce temps et je lisais. Puis après, je me suis fait choper. Fraternellement, et c'était très bien. Mais ouais, je lisais pendant la réunion de prière, comme ça. Après, vous lisez plus quand vous avez 22 ans et que. Voilà. Mais, par exemple, je suis arrivé ici, le jeudi soir, réunion de prière. C'est chaud. N'est-ce pas ? Et pourtant. Et encore aujourd'hui. Jean-Denis, le mardi, fait réunion de prière. Je ne vais pas vous dire que ça m'arrange de travailler le mardi.
Mais j'étais en vacances ce mardi. Ah, ouais, mais j'ai des choses, pas mal de choses à faire. Ouais, mais jeudi ou vendredi, ma femme m'a dit, dis donc, mardi, on aurait pu y aller. On va y aller mardi prochain parce qu'on en a besoin. Oui, chérie. Tu as raison. C'est vrai. Et allons persévérer dans la prière. C'est pour vous mettre à l'aise. Je veux dire, mais concrètement parlant, ça veut dire que, oui, à un moment, la puissance d'évangélisation, de témoignage d'une église, ce qui s'y passe et comment elle avance, quand on est 120 à l'arrière en prière, c'est bien. Et quand on persévère, c'est bien. Et c'est à ça qu'on va... Ça va être, comme notre frère Jacques Dessort l'a mis dans une de ses dernières exhortations, avant qu'il n'ait son AVC, c'est cette chaudière de l'Église. Réunion de prière. Alors, bon, moi, j'ai du mal peut-être à venir le mardi, peut-être vous c'est le vendredi, peut-être d'autres c'est le dimanche. Et tous... À un moment, nous avons besoin de reprendre conscience de notre mission, témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que cette dimension de témoin, tu la vis profondément? Est-ce que ton église la vit? Est-ce que ton église se met à genoux? Est-ce que toi, tu te mets à genoux avec persévérance? Ils ont prié. Et nous allons voir dans les chapitres suivants que ces réunions de prière régulières et chaque jour ne vont pas cesser une fois qu'ils auront reçu le Saint-Esprit. Hein, parce que je vois des petits malins qui vont me dire oui, mais une fois que la Pentecôte, les 10 jours, tout ça, le Saint-Esprit arrive, ils vont s'arrêter de prier. Non. Non. Ils se retrouvaient chaque jour. Chaque jour. Alors, mettons-nous à prier et à prier ensemble. Troisième chose, première Saint-Esprit, deuxième réunion de prière, la prière. La troisième chose, c'est l'équipe. Au cours de cette réunion de prière, à un moment, Pierre, voilà, le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur, et tout d'un coup, il réalise quelque chose et il se dit, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un. Il faut donc, verset 21, que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps du Seigneur Jésus avec nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est le verset 22. Il nous manque quelqu'un. Et ça, c'est la troisième chose. Une équipe, ensemble, un témoignage collectif. Nous avons déjà vu que dans le témoignage porté par 12 apôtres, peut-être plus sur la brèche au premier plan, est-ce que ça va être les seuls à évangéliser? Nous allons voir quelques chapitres plus loin des gens qui ne sont pas parmi les 12, hein, et qui vont partir évangéliser, par exemple Philippe. Hein, Philippe qui rentre contre l'eunuque dans le désert, etc. Et voilà, une équipe. Mais avec un camp de base, la prière, et puis une équipe. On est ensemble. Parfois, dans certaines églises, on peut dire le témoignage et l'évangélisation, c'est la mission des individus, des chrétiens individuellement, mais ce n'est pas le rôle de l'église locale. Le rôle de l'église locale, c'est la louange, c'est l'adoration, mais ce n'est pas le témoignage. Eh bien, ce texte nous dit le contraire. Il nous manque quelqu'un dans l'équipe et on est là pour être témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et la suite du livre des Actes nous tout le temps aller dans ce sens, hein, de l'Église qui envoie, qui réfléchit
ensemble, qui financent aussi pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Une équipe. C'est important. C'est important de pouvoir nous parler les uns les autres. On rencontre des personnes autour de nous qui nous posent des questions, on n'a pas toujours les réponses. Alors si on est tout seul, mais je peux en parler, aller aux membres de l'église, mon équipe, pour être témoin. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit il cherche un sens à son existence, mais je sais pas trop comment lui répondre et comment l'aborder. Tu ferais comment toi? Et ensemble, et on prie ensemble, et on échange ensemble. On se dynamise ensemble. Bon, je reviens à la Coupe du Monde, mais en tout cas dans ce mondial, il paraît que ce sont les équipes qui jouaient vraiment en équipe qui ont gagné, plutôt que des équipes où il y avait plutôt, qui étaient portées par une star. Vous voyez ? Une équipe où vous avez une star, puis les autres... ils sont pas mauvais, quoi, mais ils se reposent sur la star, quoi. Plutôt que des équipes où... Non, c'est vraiment toute l'équipe ensemble. Et bien, c'est pareil dans l'évangélisation. Nous, des fois, on préférait qu'il y ait une star, vous voyez ? Une star qui aille sur le marché, qui fasse toute l'évangélisation de toute l'église, comme ça, c'est bien. Voilà. Et ben non. Non. Seigneur nous dit, non, chacun est concerné et on est une équipe. Peut-être qu'ils auront un don plus précis pour l'évangélisation, oui. Ça ne m'empêche pas, moi, d'être témoin de Jésus-Christ quand même. Et de travailler en équipe. Avec toujours un danger, celui de peut-être témoigner tout seul. Voilà. Témoigner. Alors là, je fais allusion un petit peu à certaines circonstances où il y a quelqu'un qui va témoigner, mais jamais on a l'impression que c'est le seul, vous savez, c'est sa chasse gardée. Voilà. Chasse gardée, ben oui, mais je parle, mais il n'y a que moi qui peux lui parler, parce que si tu comprends, vous dans l'église, si vous allez la voir, vous allez un peu l'impressionner, vous avez ceci, vous avez cela. La chasse gardée. Et en fait, ça arrive qu'il y ait des manières de témoigner où on a l'impression qu'on ne peut pas rentrer et qu'on n'ouvre pas sur l'église. En fait, ce n'est pas du tout du travail en équipe, du travail à la Lucky Luke. Hein? Alors ça peut faire des sectes. Hein? Quelqu'un qui se coupe de tout le monde là pour. Et puis en fait, il fabrique son église. Il veut fabriquer son groupe à lui, dans sa manière de penser. Ou d'autres problèmes. Ayons cette sagesse d'ouvrir. Quand je témoigne, j'ai des contacts, je cherche à prendre appui sur ma base, sur les uns et les autres. Et j'ouvre. Je ne suis pas dans cette fermeture, mais si possible dans l'ouverture. Ben, viens rencontrer aussi d'autres personnes de mon église, peut-être ils auront une approche différente, etc. Oui, mais vous allez le choquer, vous allez le... Et ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas à l'aise parce que dans mon église, ils vont mal s'y prendre. » Ben, change d'église alors. Si ton église n'est pas l'équipe avec qui tu peux faire la mission que le Seigneur t'a confiée d'être témoin de Jésus-Christ en équipe, change d'église, va ailleurs. Trouve quelqu'un, trouve une équipe. Oui, mais non, mais... Et ça arrive plus fréquemment que ce qu'on pense. Alors, tous impliqués et en équipe. Amen. Et il leur manquait quelqu'un, et il ne fallait pas. Est-ce qu'il nous manque aujourd'hui quelqu'un? Est-ce que dans l'équipe, vous dites, c'est vrai que moi, j'ai peut-être pas pris ma place dans l'équipe? Ça, question, on peut se la poser à tous. Est-ce que j'ai pris ma place dans l'équipe? Quatrième chose, c'est l'attitude et la motivation du cœur. Certes, c'est une équipe et il manquait quelqu'un. Et voilà qu'on va présenter deux personnes pour remplacer Judas. Verset 23, ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. C'est intéressant. « Seigneur, toi qui connais les cœurs. » Toi qui connais les cœurs. Il fallait que la personne qui rentre dans cette équipe pour porter l'évangile ait un cœur qui soit qualifié, qui soit pur pour ce ministère, pour ce service. Paul, plus tard, on l'a vu dans une épître, Colossiens, je crois, il dit, il y en a, ils évangélisent, ils parlent et tout, mais ils n'ont pas les bonnes intentions, en fait. Ils le font, mais ce n'est pas les bonnes intentions. Le cœur. Quel est mon cœur pour témoigner? C'est vrai que pour être témoin de Jésus-Christ, c'est compliqué d'être un témoin de Jésus-Christ quand... des péchés fondamentaux gangrènent ma vie. C'est compliqué. C'est compliqué d'être témoin de Jésus-Christ quand mon amour pour lui ressemble à celui de certaines églises de l'Apocalypse, un amour tiède. Tiède. C'est compliqué d'être témoin de Jésus-Christ quand mon amour pour les autres, l'amour des âmes perdues, ça va se travailler d'ailleurs, hein, dans les Actes des Apôtres, on va voir la difficulté que l'apôtre Pierre va avoir pour aller vers les païens. Misère. Ça a été difficile. Hein. Il a fallu qu'il apprenne. Et nous? Alors, pour quelles raisons Barsabbas n'a pas été choisi, je ne sais pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais manifestement, le Seigneur connaissait les cœurs. Alors c'est peut-être le cœur de Barsabbas, lui-même, peut-être que le Seigneur a vu des choses dans son cœur qui en fait ne collaient pas. Ou peut-être que c'est le cœur des autres. Peut-être que ce n'était pas le cœur de Barsabbas qui posait problème, mais peut-être que c'était les autres. Et le Seigneur connaît les cœurs des autres aussi. Pourquoi je dis ça? Juste une petite allusion au fait qu'au verset 14, nous trouvons la toute dernière mention de Marie, la mère de Jésus, dans tout le Nouveau Testament. On ne parlera plus de Marie après. Est-ce qu'elle est mise au premier plan? Est-elle mise au premier plan? Non, elle est présente. Elle est là, dans la réunion de prière, parmi les 120. Est-ce qu'elle a une place prépondérante? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Qu'est-ce que l'Église catholique a fait de Marie? Ben, la remplaçante de Jésus, quasiment. Hein? Prière à Marie, Marie qui intervient, Marie qui apaise Jésus, on passe par Marie... Connaissez ça, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir que Dieu qui connaît les cœurs, Dieu connaît les cœurs, et il connaît, c'est pas de la faute de Marie, hein, si on a fait d'elle une idole, c'est pas de sa faute. Mais Dieu connaît les cœurs. Et il a fait en sorte que justement, on ne, au moins bibliquement, on n'ait aucun appui pour justifier ça. Et il ne lui a pas donné de rôle de premier plan à ce moment-là dans l'Église du tout. Et elle disparaît du paysage. Contrairement aux frères de Jésus, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tiens, Dieu connaît les cœurs aussi. Les frères de Jésus. Ben oui, Jacques et Jude, qui ne sont pas des apôtres, hein, mais qui ont écrit le livre de Jacques, l'épître de Jacques et l'épître de Jude. Qui était Jacques? Le chef de l'Église de Jérusalem. On va le voir dans les Actes. C'est-à-dire que le frère de Jésus, Jacques, qui ne croyait pas en lui avant, mais qui s'est converti en étant témoin de la résurrection, il était présent à cette réunion de prière et il va devenir le chef, le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Mais Dieu connaît les cœurs. Et est-ce que vous avez jamais entendu dire qu'il y a eu des problèmes avec la succession de Jacques ? Non. Non, mais je dis ça, mais c'est fondamental. Vous prenez l'islam. Quand Mahomet est décédé, ben, ça a été des guerres de succession. Immédiatement. Et ça a été la naissance. Alors, qui est l'héritier qui doit devenir calife à la place du calife ? Hein ? Et ça a donné la naissance immédiatement aux sunnites et aux chiites. Voilà, bon. Oui, et avec des meurtres, avec tout ce qu'on veut. Hein. Or, plus tard, l'Église catholique a repris, je dirais, avec la question du pape, la succession apostolique de l'apôtre Pierre, chef de l'Église. Bon, mais c'était pas au début, c'était pas dans les premiers siècles. Ça, elle s'en est occupée plus tard. Mais jamais Jacques! Pourtant, ça aurait pu, c'était le frère. Alors, je suis quand même de la famille, moi. Hein. Je suis de la famille, hein. Oh, oh, oh! Donc, il faut que... Eh ben non, le Seigneur connaît les cœurs et les cœurs de ceux qui sont autour. Intéressant. Ça ne veut pas dire que c'était toujours facile. Dans l'Épître aux Galates, il y a un problème par rapport à cette transition des Juifs, justement, les coutumes juives. Et Pierre, qui avait compris et qui avait cette liberté de rencontrer les païens, de manger avec les païens, le texte nous dit, mais quand arrivèrent certaines personnes de l'entourage de Jacques, alors il changea de conduite et il se retira. Et ça fait tout un problème et Paul va le régler en disant, elle dit non, là tu te conduis de façon hypocrite, avant que ceux de l'entourage de Jacques arrivent, tu mangeais avec les païens, maintenant qu'ils sont là, tu fais comme si... Oh, vous voyez l'entourage, c'était pas Jacques le problème, c'était son entourage. Je veux simplement mentionner que peut-être le problème n'était pas Barsabbas, mais peut-être c'était son entourage. Peut-être. Et le Seigneur connaissait les cœurs, peut-être le sien, peut-être ceux des autres autour, et il savait, voilà, il dit, ben non, ça va être Matthias. Le Seigneur, dans sa sagesse, sait ce qu'il fait. C'était une petite parenthèse. Et nous terminons avec la dernière chose, pour être témoin. Eh bien, il faut connaître. De quoi vous voulez témoigner si vous n'avez rien vu, rien vécu ? Ouais, moi je suis témoin. Oui, d'accord, raconte-nous. Ben, je sais pas, témoin de quoi ? Témoin de quoi ? Pour Matthias, qu'est-ce qui a fait qu'il pouvait être un témoin ? Verset 21 nous dit, il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui ait été présent dans la nuée des autres disciples, parce qu'il n'y avait pas que 12 disciples hein, qui suivaient Jésus, il y en avait plein d'autres, mais qui n'étaient pas les 12 plus proches. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé, etc. Voilà. Il fallait qu'il ait vu, qu'il était un témoin oculaire, qu'il ait touché du doigt, qu'il sache, pour être un témoin, connaître. Et c'est ce que fait Luc quand il écrit à ce fameux Théophile. Luc, lui, n'était pas un témoin oculaire, mais pour être témoin de Christ auprès de ce Théophile, qu'est-ce qu'il a fait ? Des recherches exactes et minutieuses. Il s'est renseigné. Il voulait pas parler un petit peu, un peu flou, un peu au pif, un peu dans le vague. Alors, je vais te raconter l'évangile. Alors l'évangile, ben tu vois, t'as Jésus quoi, hein. Ben voilà, c'est le fils que Dieu a eu avec Marie. C'était un homme. Puis bon, il est devenu Dieu. Et ouais, quand on commence à raconter l'évangile avec des mots comme ça, un peu approximatif, un peu flou, déjà là vous avez 4 ou 5 erreurs théologiques fondamentales. Eh oui. Si vous devez être témoin de Jésus-Christ et dire à... on doit se poser cette question, est-ce que
je suis capable aujourd'hui d'annoncer simplement le chemin du salut, l'évangile, à quelqu'un qui me le demande. Comment je vais lui expliquer ? Témoin. Mais pour être un témoin, il faut connaître, il faut avoir vu. On n'est pas un témoin... Il y a des gens comme moi qui sont très inattentifs, ils peuvent se dérouler des tas de choses devant leurs yeux, ils ne voient rien. Alors pour être un témoin, c'est compliqué, vous voyez ? Pour être témoin de Jésus-Christ, c'est pareil. Est-ce que je suis attentif à l'enseignement ? Luc disait, moi j'ai fait des recherches exactes, et toi, tu as entendu des tas de choses. Alors on va les poser de manière exacte et suivie. Et... C'était quoi ? J'aime bien la formule qui dit, au début de l'évangile de Luc, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et c'est important. Être un témoin de Jésus-Christ qui puisse exposer avec justesse la parole de Dieu et le message du salut. Et pour ça, on a besoin de travailler en équipe, d'apprendre ensemble. Toujours prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Toujours prêt. Toujours prêt parce que je suis rempli du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais toujours prêt aussi parce que, comme dit Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais. C'est clair dans ma tête. C'est clair. Et ce qui est clair pour moi, je peux en parler aussi clairement. Et le partager. Alors, ce matin... Retrouvons peut-être cette mission, cet ordre de mission de dire le Seigneur nous appelle à être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas une option. C'est la dernière chose qu'il nous demande, qu'il nous laisse. Si on passe à côté, c'est misérable. C'est misérable. Comment est-ce que moi, tant que membre de l'Église, je prends à cœur cet ordre de mission du Seigneur dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je m'y implique? L'équipe. Et c'est vrai, ça fait grincer des dents, ça commence par une réunion de prière. Alors, moi aussi, ça, c'est. Oui. Ben oui, non, mais oui. Persévérer dans la prière. Est-ce qu'on est. Je sais qu'on a tous envie, hein, que l'Église, il y ait des nouveaux convertis, etc. On a moins envie d'être 120 à la réunion de prière. Travailler en équipe. Veiller à être rempli du Saint-Esprit. Creuser les enseignements bibliques pour être capable de bien les exposer, les enseigner. Être un témoin, mais un témoin en toute connaissance de cause qui sait de quoi il témoigne. Qui n'est pas là en train de bredouiller. Ah ben, peut-être le pasteur il t'expliquera ça mieux que moi, je sais plus trop, enfin, tu parleras avec lui, hein. peut-être. Et la motivation du cœur. Alors prions. Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins, témoins de ta résurrection, en partant de notre localité. Pour nous, ce n'est pas Jérusalem, c'est Arles. Puis notre région, puis les extrémités de la terre. Seigneur, on veut te demander vraiment que tu renouvelles cette vision pour notre Église et pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.